Le journal du midi. Carlos Koundé.
Jeudi 4 mai 2023, bienvenue à tous dans la session d'information de la mi-journée sur Radio de la Paix. Voici nos titres. Élection locale du 2 septembre prochain, le PDCI a publié sa liste de candidats. Son porte-parole, Soumaïla Bredoumi Kouassi, nous fera des précisions dans cette édition. La semaine de la sécurité routière, elle a été lancée il y a quelques jours à San Pedro avec notre correspondant dans le Bassa, Sandra Kofi Benson. On fera le point dans quelques minutes. Hors de nos frontières, l'Américain d'origine indienne, Ajay Banga, a été élu hier mercredi nouveau président de la Banque mondiale pour un mandat de 5 ans. Et puis l'invité de la rédaction sera Dr Amoussou Landry de l'université Gang Koulibaly de Korogo. Avec Francis Cassi, il reviendra sur le fait que la loi n'empêche pas d'être en même temps maire et ministre gouverneur. Voici pour les grandes lignes, madame, monsieur, bonjour et merci de choisir Radio de la Paix pour vous informer. C'est parti, la course dans le cadre des élections régionales et municipales du samedi 2 septembre 2023 est bien engagée et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire entendait le PDCI-RDA qui place ses élections locales sous le signe de la reconquête du Grand Nord, a rendu public le mardi 2 mai dernier la liste de ses candidats. A noter que cette formation politique présente des candidats dans 27 régions sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit entre autres le député Soumaïla Bredoumi Kouassi, porte-parole du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire.
Nous avons retenu pour les régionales 27 candidatures dans 27 régions et pour les municipales 163 sur les 201 communes, soit un taux de couverture pour les municipales de 81,9%. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons commencé notre reconquête du Nord, le Nord des régions pour lesquelles le PDCI s'est senti un peu absent depuis un certain moment. Donc sur les 9 régions du Grand Nord, le PDCI présente 7 candidatures dans 7 régions, soit 77%. Et sur les 69 communes de la grande région du Nord, le PDCI présente 35 candidatures. Et cette fois-ci, nous pensons augmenter notre présence dans le Nord et notre présence au niveau national.
Honorable Kouassi Bredoumi, qu'en est-il du projet d'alliance avec le parti de Laurent Gbagbo, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, avec la publication de cette liste de vos candidats potentiels?
Oui, je peux vous assurer qu'il y a une équipe bipartite qui est composée des représentants du PPACI et du PDCI-RDA après la sortie des différentes listes pour analyser chaque endroit, que ce soit au niveau des régionales qu'au niveau des communales, pour que nous puissions avoir une alliance entre les deux partis politiques pour aller aux élections. Et les négociations ont déjà commencé.
Joint par Soro Adams, vous entendiez à l'instant l'honorable Soumaïla Bredoumi Kouassi, député de Tankessé, Kokomia et Etienne Kouakro, porte-parole du PDCI. RDA. À Korogo, 25 jeunes, dont 15 filles issues de partis politiques et autres associations confessionnelles et estudiantines et d'ONG de la région du Poro ont bénéficié d'un renforcement de capacité autour de la thématique « Quelle contribution de la jeunesse ivoirienne à la construction de la nation ?» À travers cette formation, les jeunes sont amenés à intégrer et à surtout relayer les notions indispensables en termes de défis à relever pour l'édification d'une nation ivoirienne solide. Les échos avec Marcel Bonny.
Le renforcement des capacités sur la contribution de ces jeunes leaders à la construction de la nation s'appuie sur des modules que précise le docteur Flamboqué César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan.
Ethnie, religion, région et nation, comment renforcer la nation ivoirienne dans le contexte socio-politique actuel? Également, mettre l'accent sur le fait que les jeunes ou alors les citoyens doivent être au cœur des institutions de la République. Enfin, il s'agissait de voir comment agir en faveur de la construction de la nation ivoirienne.
Des notions essentielles avec des attentes exprimées.
Nous avons espoir que les différents messages que nous sommes venus passer ont été effectivement entendus et que ces participants-là, en tant que leaders d'opinion, pourront répercuter dans leurs différents environnements, montrer qu'on est devenu mature et que les questions électorales ne peuvent pas être l'occasion d'instaurer dans une région de la violence.
Message reçu par ces jeunes leaders.
Jiremawa, jeune leader politique féminine, nous retenons qu'il est important pour nous en tant que jeunesse, en tant que personne, en tant que citoyen, de nous engager pour la construction de notre nation. nation. Et la construction de la nation ivoirienne ne se fera pas sans l'union de ses fils et de ses filles.
Nyotin Fatmata Thio, présidente nationale de l'Alliance féminine pour le changement, en abrégé AFC. Nous avons compris que chaque citoyen doit pouvoir respecter ses droits et devoirs afin de faciliter la construction de cette nation que nous voulons toutes.
Notons que ce projet, exécuté par le Centre de recherche politique d'Abidjan, cible les villes de Korogo, Abengourou, Abidjan, Gagnoua, Mans, Séguéla et Yamoussoukro. Marcel Bonny, Korogo, Radio de la Paix.
La Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat a adopté le mardi dernier 2 mai à Yamoussoukro le projet de loi portant modification de la loi du 14 octobre 2019 instituant le service civique. Au terme de cet exercice, le ministre Mamadou Touré de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique est revenu sur quelques réformes majeures opérées dans le cadre de cette modification. Le ministre Mamadou Touré dans des propos recueillis par Emilia O.
Le service civique a été instauré en Côte d'Ivoire depuis les années 60. Dans les années 2016 et 2019, il y a une loi qui a été votée réinstaurant donc le service civique dans notre pays. Vu les enjeux actuels, les défis que nous avons et l'évolution des choses, il a plu au gouvernement de proposer une modification de la loi de 2019 concernant le service civique pour tenir compte des enjeux actuels. D'abord, le service civique ne concernait que les jeunes qui avaient entre 18 et 35 ans. Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre donc des adolescents de 14 ans et de ne plus avoir donc des limites donc concernant l'âge. Ensuite, la Côte d'Ivoire a signé beaucoup de partenariats à l'international et dans le cadre de cette coopération, nous sommes amenés à accueillir donc des jeunes étrangers qui feront leur programme de volontariat dans notre pays. Mais dans le cadre de la réciprocité dans cette coopération, des jeunes Ivoiriens iront aussi à l'étranger pour des périodes allant de 6 mois à 9 mois pour faire donc le programme de volontariat. Donc nous avons modifié la loi qui nous permet d'accueillir des jeunes étrangers dans le cadre du programme de volontariat et qui permet aussi donc de faire partie de nos jeunes à l'étranger. Et puis vous avez le certificat qui sanctionne le passage des jeunes dans les centres de service civique qui pourra remplacer le document de position militaire pour le concours et non dans la fonction publique. Donc c'est autant d'innovations apportées donc à cette loi pour tenir compte des enjeux actuels. Et le gouvernement veut aussi passer à l'échelle. L'idée pour nous, c'est donc de traiter autour de 14 000 jeunes par an dès l'année prochaine, là où on a à peu près 7 000 jeunes par an qui sont traités dans les centres de services civiques dans notre pays.
Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. On parle de protection des droits du travailleur à présent. Dans le but de mieux encadrer le secteur du travail, l'État ivoirien a ratifié plusieurs conventions, dont celle la collective interprofessionnelle de juillet 1977 et récemment la convention de l'OIT portant sur le droit à un cadre sain et sûr pour le travailleur. C'est ce qu'a fait savoir la directrice du cabinet adjointe du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Bintou Koulibaly. Elle était l'invitée de la tribune d'échange hebdomadaire du CICG, centre d'information et de communication gouvernementale, dénommé Tout Savoir Sûr, le mardi 2 mai 2023 à Abidjan. Linda Ballier a suivi cette rencontre avec la presse, son compte rendu.
En dépit des instruments juridiques pour bien définir le cadre du travail et protéger les droits des employeurs et travailleurs, l'État a mis en œuvre un dispositif institutionnel important, selon Bintou Koulibaly, directrice de cabinet adjointe du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.
Eh bien, l'État a mis en place un important dispositif institutionnel qui implique plusieurs structures, telles que l'inspection du travail. C'est l'organe dédié au suivi de l'application et de la réglementation du travail. Donc, lorsqu'un travailleur estime qu'il est lésé dans ses droits, le reflet ce qu'il doit avoir, c'est de saisir le service d'inspection du travail du lieu d'exécution de son contrat de travail. Nous avons les services de contrôle de la CNPS, les services de santé et de sécurité au travail et les tribunaux de travail. Il y a aussi des organes de dialogue social qui apportent une forte contribution à la protection des droits des travailleurs.
Avant d'ajouter que...
En matière de santé et sécurité au travail, nous avons ratifié plusieurs conventions et l'année dernière seulement, au cours de la conférence internationale du travail, il a été décidé que le droit du travailleur à un environnement sûr et salubre, c'est-à-dire la prise en compte des questions de santé et sécurité au travail, deviennent un droit fondamental du travail. Et on a indiqué les conventions qu'il fallait ratifier pour être à jour. Et la Côte d'Ivoire avait déjà ratifié les deux conventions concernées. C'est pour dire que notre pays s'emploie à ratifier les textes essentiels pour pouvoir permettre à nos travailleurs de vivre décemment.
Annonçant l'ouverture prochaine de 3 antennes de santé et sécurité au travail à l'intérieur du pays, Bintou Koulibaly a assuré que le gouvernement s'emploie à relever les défis qui subsistent en matière de protection des droits des travailleurs.
Par parlant économie, un déjeuner d'affaires sur le financement des entreprises ivoiriennes a été organisé hier mercredi 3 mai 2023 à Abidjan Plateau. Cette rencontre qui a porté sur le thème FSA, APBFCI, CGC, un partenariat naturel pour la couverture des besoins de financement des entreprises ivoiriennes, est une initiative du Fonds de solidarité africain en partenariat avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus avec Jean-Claude Mabéa.
La présentation du Fonds de solidarité africain, FSA, a été faite par Ali Guindo, son chef de mission résidente en Côte d'Ivoire.
Le Fonds de solidarité africain, c'est une institution qui est là depuis environ 45 ans. La Côte d'Ivoire fait partie des États fondateurs et nous avons aujourd'hui 16 États autour du capital et ce sont ces États qui sont les actionnaires du FSA. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont soumises à des pesanteurs pour la satisfaction de leurs besoins de financement et nous, nous sommes là pour essayer de jouer le rôle de facilitateur pour le financement de ces entreprises. D'ici le 31 décembre, l'objectif est de faire au minimum 100 milliards d'interventions en faveur des entreprises nationales.
Le patronat ivoirien dit accorder un intérêt particulier à ce partenariat, à en croire Sanga Kone, le représentant du président de la CGC.
Que nous et les établissements de crédit puissions nous accorder sur l'utilisation efficiente des leviers pour la couverture idoine de nos besoins de financement. Nous aspirons tous à faire partie des champions nationaux.
Pour le président de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Jérôme Ehui, le FSA est un partenaire stratégique du secteur privé.
Présent à nos côtés depuis plus de 4 décennies, le FSA met à notre disposition une panoplie d'instruments opérationnels qui sont un appoint évident pour la menée de nos activités.
En attendant la finalisation de son processus d'accréditation en Côte d'Ivoire, il faut signaler que le FSA a été créé le 21 décembre 1960. À Paris, en France, et son siège est à Niamey, au Niger.
Autre chose, dans ce 12 heures, la 4e édition de la Semaine nationale de sécurité routière a démarré le mercredi 3 mai à San Pedro, donc hier. Ce projet vise à sensibiliser les usagers de la route sur le respect du code de la route. Pour cette 4e édition, l'accent a été mis sur la sensibilisation et la répression des conducteurs d'engins à 2 et 3 roues. Des détails avec Kofi Benson, correspondant Radio de la Paix, dans le Bassa-Sandra.
Vous appelez comment, monsieur?
Je m'appelle Traoré.
Monsieur Traoré, votre cas c'est où?
Bon, c'est là.
Le cas c'est dans le tricycle et vous ne le portez pas. Vous ne trouvez pas que c'est pas normal de votre part?
C'est pas normal.
La main vous fait 2000 francs pour le non-port de cas. Vous payez la contravention, je vous donne le reçu.
Ces échanges sont d'un agent de police et d'un usager de la route à bord d'un tricycle sans casque. Après avoir payé sur place la contravention, l'usager se dit désormais prêt à respecter les règles.
Non, demain, ils vont jamais m'attraper comment? C'est pour porter casque maintenant, ce n'est plus cadeau. C'est la contravention 2000 francs.
Pour le directeur régional des transports à San Pedro, à Cambi, à Biboulaye, la répression après la sensibilisation est un moyen efficace pour la sécurité routière.
Les premiers mois, nous avons voulu mettre l'accent sur la sensibilisation. Un peu de répression, mais beaucoup de sensibilisation. Ça fait la 4e édition. C'est vraiment déplorable que nous voyons encore des usagers qui roulent souvent les motos sans casque. Tout à l'heure, j'ai verbalisé un monsieur qui venait du trésor payer les 2000 francs. Tu viens de payer l'amende et tu continues de ne pas respecter les consignes. Donc j'ai insisté encore qu'on lui donne notre amende. Quand il va payer chaque fois comme ça, nous pensons qu'il va changer.
Le constat sur le terrain impose un renforcement des opérations selon le commissaire principal Kwame Henri Michel, préfet de police adjoint de San Pedro.
Nous ne baissons pas les bras et je voudrais exhorter l'ensemble des acteurs à œuvrer encore davantage dans la mise en œuvre de cette opération.
Selon l'ONPC, l'Office national de la protection civile, il a été enregistré 97 interventions en janvier avec 3 décès, 61 interventions en février avec 2 décès, 80 en mars et 101 intervention en avril avec un décès. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
On reste à l'intérieur du pays. En partenariat avec une entreprise, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère des Transports, a remis le samedi 29 avril 50 taxis à des jeunes de Boaké. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation et de la lutte contre la pauvreté chez les jeunes. On en sait plus avec Joseph Assalé, correspondant à Radio de la Paix dans le Boaké.
La remise de 50 nouveaux taxis aux jeunes de Boaké sous-tend 3 objectifs, selon le directeur régional du transport de Boaké, Touré Oumar.
Accroître la mobilité des populations en mettant un accent particulier sur le confort des passagers et la qualité du service. Réduire considérablement la pollution de l'environnement liée au vieillissement des véhicules et lutter efficacement contre les sécurités routières.
L'octroi de ces taxis constitue un soulagement, estime le président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire, Diaby Ibrahim.
Ce qui se passe aujourd'hui, j'ai relégué un grand problème des transporteurs routiers, à savoir leur doter de matériel roulant capable, 1, de respecter l'environnement durable, 2, la sécurité routière, et 3, leur permettre de faire des recettes.
Quant au directeur général du Fonds de développement du transport routier, il se félicite du comportement des acteurs de la filière à Boaké. Docteur Kouyaté Mohamed Djemadjan.
Leur organisation, leur professionnalisation, la mise en œuvre d'outils de gestion modernes permettent aujourd'hui de dire au niveau du projet Achop Leyland qu'ils sont à plus de 80% de taux de remboursement. Et pour 30 véhicules taxi que nous avons mis à disposition depuis bientôt 2 ans, ils sont également à un taux de près de 70% de remboursement.
Le projet de renouvellement du parc auto des transporteurs sera exécuté dans toutes les régions du pays, rassure le directeur général du Fonds de développement du transport routier. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
En page internationale, l'américain d'origine indienne Ajay Banga a été élu ce mercredi 3 mai en qualité de nouveau président de la Banque mondiale pour un mandat de 5 ans par le conseil d'administration de l'institution. Candidat unique déclaré, Ajay Banga, 63 ans, soutenu par les États-Unis, a été élu sans surprise. Le financement de la lutte contre le réchauffement climatique et la réforme de la Banque mondiale sont ses priorités. Le nouveau patron de la Banque mondiale prendra ses fonctions le 2 juin 2023. Et puis, dans la nuit de lundi à mardi, le capitaine russe d'un frachtier américain et 2 de ses sous-officiers, des Géorgiens, ont été kidnappés en début de semaine tout près d'un port gabonais par des pirates qui ont attaqué leur navire, a indiqué hier mercredi à l'AFP des sources judiciaires et maritimes. Le capitaine, un russe, et ses second et troisième officiers ont été enlevés par des inconnus, a-t-elle précisé. 3 membres de l'équipage sont portés disparus. La police gabonaise mène l'enquête, a confirmé à l'agence France Presse à Kuala Lumpur, un responsable des autorité maritime internationale, sous couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de ces informations. Place au dernier élément sonore de ce 12h. L'invité de la rédaction de ce jour est assistant en droit à l'université Pelefolo-Gon Coulibaly de Korogo. Il indique que la loi n'empêche pas d'être en même temps maire et ministre-gouverneur, tout en clarifiant les rôles de ses autorités. Docteur Amoussou Landry répond à cet effet aux questions de Francis Cassie.
Docteur Landry Amoussou, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, un gouverneur qui est un poste nominatif peut-il briguer un poste électif comme celui de député, maire ou de président de conseil régional?
Le nouveau code électoral de celui de 2020 ne fait pas obstacle à ce qu'un gouverneur puisse briguer le poste de député ou de maire.
Est-ce qu'il ne peut pas avoir conflit d'intérêts si lui il est maire et puis en même temps gouverneur du district?
Non, la mairie c'est carrément différent avec son poste de gouverneur. Puisque dans la mairie, il aura affaire à des conseillers municipaux qui vont provenir des différents quartiers de cette commune. Ça n'a absolument rien à voir avec son cabinet qu'il dirige déjà en tant que gouverneur du district.
Ce que je veux dire, quand on prend par exemple un district comme celui d'Abidjan, le district d'Abidjan englobe des communes, non?
Bien sûr.
Donc, si le gouverneur de ce district lui-même devient maire, est-ce que quelque part il n'aura pas conflit d'intérêt?
Oui, attention, le mot conflit d'intérêt ici peut prêter à confusion. C'est-à-dire, le code électoral, effectivement, ne fait pas mention qu'il y a une incompatibilité entre les deux fonctions. Voilà. C'est déjà le premier élément de réponse. N'oubliez pas aussi que le gouverneur est également député. Les députés, n'oubliez pas, ont pour mission également de voter le budget.
Quelles sont les relations entre un district et une mairie? Parce qu'on a vu souvent des bisbilles entre des maires et des gouverneurs.
Oui, parce que ces deux autorités-là interviennent dans le cadre de la décentralisation. Donc effectivement, quand il n'y a pas une séparation nette de leurs compétences, il risque d'avoir des chevauchements. Les ministres-gouverneurs, je pense qu'on leur a donné dans la vaste gamme de la décentralisation 2 ou 3 compétences. Ils doivent renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale, ils doivent assurer le suivi et la bonne exécution des programmes et des projets. Voilà.
Donnez-nous un exemple où il peut avoir, je vais dire bisbille, entre un maire et un gouverneur du district.
Par exemple, le gouverneur n'est pas autorité de police. Il n'a pas vocation à assurer le maintien d'ordre dans la commune. Non. Tout ce qui concerne la salubrité, la tranquillité, échappe au champ du gouverneur. Ils sont de la compétence, effectivement, des maires.
Mais à quel moment un gouverneur intervient dans une commune?
En réalité, leur champ est extrêmement limité. Parce que, fondamentalement, on apprend qu'ils ont plus ou moins 3 zones de prédilection. Toujours dans la dynamique de développement, ils vont assurer une mission de suivi, de coordination, de supervision des projets, des programmes qui vont être peut-être adoubés à certaines communes. L'idée, c'est de savoir maintenant quels sont les programmes qui vont être agencés dans ces différentes collectivités territoriales. Donc c'est à eux de communiquer sur les programmes qu'ils veulent exécuter dans ces différentes collectivités, puisqu'ils doivent assurer le suivi et l'exécution des programmes. De quel programme il s'agit?
Alors, vous dites que le champ d'action des gouverneurs est limité, mais quelle est l'échelle de hiérarchie entre un gouverneur et un maire? Qui est au-dessus de qui? Qui est au-dessous de qui?
Alors, attention, il n'y a pas de hiérarchie parce que c'est des autorités, comme on le dit, autonomes. Ce mot autonome est intéressant. Ils interviennent de façon autonome dans certains aspects. Voilà. Le maire, on connaît déjà ses supérieurs hiérarchiques. C'est le préfet, le sous-préfet et le ministre de l'Intérieur quand il agit en tant qu'agent de l'État. Mais le ministre gouverneur, le décret de nomination est clair. Ils vont assurer le suivi et la bonne exécution des programmes et des projets. Donc, ils ne sont pas dans une dynamique de supériorité ou bien de tutelle.
Tout à l'heure, vous avez dit ministre gouverneur. Allez, vous savez, hein, quand on entend ministre gouverneur, ça fait grand, hein, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Donc, ça veut dire qu'ils sont au-dessus des maires.
Pas du tout.
Mais puisqu'ils ont le vocable ministre gouverneur.
Bon, généralement, il faut qu'on fasse attention aussi au vocable, il faut voir le contenu. Que dit la loi? Une fois, j'ai taquiné un ami, j'ai dit que lorsqu'on regarde les textes, mieux vaut être ministre que vice-président hein, de la République, n'oubliez pas. Voilà. Parce qu'il faut faire attention aux mots, il faut voir le contenu. Il y a des postes, en réalité, ils n'ont pas suffisamment de pouvoir. Moi, je préfère encore être maire que ministre-gouverneur. Parce que quand je prends les textes, le maire a énormément de pouvoir, le conseil municipal a énormément de pouvoir. Les ministres-gouverneurs, on dit, ils rentrent dans le cadre d'une mise en œuvre de la politique de décentralisation.
Mais le ministre-gouverneur a un champ géographique beaucoup plus vaste, non?
Beaucoup plus vaste, c'est vrai, mais tant qu'il n'y a pas de projet, et tant qu'il n'y a pas de programme, on pourrait dire qu'il a les bras croisés.
Ah bon?
Bien sûr, parce que ces autorités sont dotées effectivement de pouvoirs, je dirais, limités. Ils rentrent dans le cadre d'une mise en œuvre. Là, si on n'est pas dans le domaine du droit, on aurait pu se demander est-ce que c'était nécessaire de créer encore d'autres autorités alors qu'il y en avait d'autres encore qui ne sont pas finalement dotées de pouvoirs et de moyens. Bon, ça, c'est les politiques qui vont donner les explications. Mais nous, les juristes, lorsqu'on regarde les textes, lorsqu'on regarde les pouvoirs qu'ils ont, lorsqu'on regarde le champ d'application, il leur faut encore effectivement énormément de moyens. Lorsqu'on va avoir les programmes pour lesquels ils sont nommés, pour l'heure, c'est des mots, c'est des noms. On attend de voir effectivement le contenu de tout ça. Lorsqu'on regarde les textes, je l'ai dit encore, moi si on m'avait proposé, je peux être maire que ministre-gouverneur.
Selon vous, le budget des maires vient beaucoup plus des mairies elles-mêmes par rapport à leur capacité économique et puis bon, l'État vient un peu en appoint. Mais et les ministres-gouverneurs?
On peut déjà penser que c'est l'État effectivement qui a mis à leur disposition cette étude de ressources. Maintenant, où on va les piocher? Là, j'avoue qu'on peut toujours subodorer qu'il s'agit peut-être d'une contribution de ces collectivités locales.
Docteur Landry Amoussou, je vous remercie.
Merci beaucoup, je vous en prie.
Voilà, cet entretien de Dr Landry Amoussou avec Francis Cassimet, terme à ce 12h, le rappel de l'essentiel. Élection locale du 2 septembre prochain, le PDCI a publié sa liste de candidats. Son porte-parole, Soumaïla Bredoumé Kouassi, nous a fait des précisions dans ce 12h. La semaine de sécurité routière pour le mois de mai a démarré hier à San Pedro. Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa Sandra, nous a fait le point. Et puis, hors de nos frontières, l'Américain d'origine indienne, Ajay Banga, a été élu hier mercredi nouveau président de la Banque mondiale pour un mandat de 5 ans. Merci de nous avoir suivis. Je serai avec vous à 15h pour le Flash Info. À présent, la revue de presse qui porte la signature de Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. Le gouvernement était réuni hier mercredi en Conseil des ministres et ce sont les décisions de cette rencontre que relaie et commente la presse parue ce jeudi 4 mai 2023. Fraternité Matin, par exemple, retient entre autres décisions de gouvernement.